France Inter.
Engagé en faveur des libertés publiques, le haut fonctionnaire, avocat, écrivain et académicien François Sureau est passé par l'ENA, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. L'écriture a précédé chez lui le barreau avec la publication de La corruption du siècle et le roman L'infortune, couronné par le Grand Prix de l'Académie française en 91. Notre invité passe la robe d'avocat en 95 et entre les plaidoiries publie Le sphinx de Darwin, Les Alexandrins, L'or du temps, L'obéissance, Inigo portrait, Le chemin des morts ou encore S'en aller. Il vient de publier chez Gallimard le premier tome d'une série à la frontière entre polar et roman historique intitulé Les enfants perdus et mettant en scène Thomas More, vous dites quoi Thomas
More,
oui,
Thomas More.
Voilà, évidemment à la britannique, détective peu impressionnable traversant les époques. Il a également préfacé le beau livre À Paris sur les traces des personnages de romans parus chez Autrement. Éloge de l'évasion et de l'apprentissage par la fiction ce soir, bien que nous acceptions quelques fragments de réel s'il le faut. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir François Sureau.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
La lecture de, d'un passage vraiment qui m'a à la fois enthousiasmé, troublé et enthousiasmé. La lecture d'un passage d'un grand écrivain anglais qui est Patrick Liefermore, qui a traversé l'Europe juste après l'accession des nazis au pouvoir. Il est parti de Londres, il est arrivé jusqu'à Constantinople, et il décrit un pays que j'ai connu, dans lequel j'ai habité autrefois, qui était la Hongrie, et il décrit la Hongrie au moment où la Hongrie commence à basculer, si je puis dire, du mauvais côté de l'histoire, et il décrit la disparition de l'ancienne Hongrie dans les années 33-34, en décrivant les fêtes de Pâques dans une petite ville, Erzsébet, et en présence du cardinal primat, des magyars, des gitans, des bohémiens, des ours, un récit complètement touchant, halluciné, écrit dans une langue magnifique, et qui m'a véritablement fait voyager. Et donc j'ai éprouvé un fol enthousiasme pour ces deux pages, toutes simples, tirées d'un livre qui s'appelle « Le temps des offrandes ».
Où avez-vous vécu en Hongrie ?
À Budapest. C'était en mai 89, au moment pour le travail, au moment de la chute du mur, et j'ai gardé des souvenirs absolument extraordinaires de ces journées. Le jour où on apprend qu'une unité de l'armée hongroise, que personne ne connaissait, avait cisaillé elle-même les barbelés de l'ancien mur de la frontière entre l'Autriche et la Hongrie, dans le petit village de Sopron, et où tout d'un coup, des milliers, puis des milliers et des milliers de Hongrois avaient traversé la frontière pour atteindre le pays de la liberté, et se livrer à ce qu'on a appelé le pique-nique de Sopron. C'est un gigantesque pique-nique de 10 000 personnes en train de pique-niquer de l'autre côté du mur et ensuite de pousser jusqu'à Vienne.
Alors ce soir, on va faire l'éloge du verbe, évidemment, et je voudrais vous demander sur quelle lettre du dictionnaire vous trouvez-vous à l'Académie française ?
Quelle était la lettre que j'ai eue, vous voulez dire, au moment...
Là, vous êtes en train de travailler au dictionnaire.
Ah oui, non, alors, écoutez, je vais vous faire un aveu qui va suffire à me condamner. Je n'y prête pas énormément d'attention. Bien entendu, comme je suis un esprit, amical et accommodant à l'égard de tout le monde, je ne vais pas critiquer mes confrères pour se livrer à cette activité, mais cette activité ne me passionne pas vraiment. Je trouve que... Alors, bon, le dictionnaire est une activité que Richelieu, après tout, a assignée à l'Académie française et que ses successeurs se croient obligés de continuer à poursuivre. Pour moi, la défense de la langue française ne consiste plutôt dans l'activité de création, dans la lecture, dans l'écriture, plutôt dans l'activité de création que dans l'activité consistant à donner, à fixer la langue, si je puis dire, de manière non normative, hein, puisqu'ils fixent la langue, ce sont des gens très compétents qui font ça, mais ça ne me passionne pas, sauf de temps en temps, quand on a... Alors là, en ce moment, d'ailleurs, quand j'y suis rentré, on était en train de terminer l'édition qui avait été commencée en 1932. Donc, on a dû commencer l'édition suivante, je ne dois y apporter qu'une attention distraite, mais de temps en temps, quelque chose me fascine. Quelque chose de romanesque. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans cette assemblée des gens tout à fait variés, et de temps en temps, quelqu'un se déchaîne sur un mot, un nom, quelque chose qui lui plaît, qui lui évoque quelque chose et qui et sur lequel il est particulièrement savant. Voilà. J'ai assez rarement l'occasion d'être savant sur quelque chose, mais je l'ai été au moins une fois et ça restera ma grande fierté. C'est le seul moment où je m'y suis intéressé à propos du mot zéphyr. Qui est un mot pleuré, d'où Alcyon, et vous, Zéphyr, etc., chénier, vous voyez, c'est un mot très poétique, le Zéphyr, et il manquait dans l'Académie française, j'en suis très fier, vraiment, je tiens à me vanter d'avoir introduit cette dimension, il manquait dans l'Académie française le fait que Zéphyr était un mot employé par l'argot militaire à la fin du XIXe siècle pour désigner les soldats des bagnes militaires, c'est-à-dire des bataillons d'infanterie légère d'Afrique. On les appelait les joyeux ou les Zéphyrs. Et donc je suis l'auteur de deux phrases qui ne me vaudront pas l'immortalité.
Mais en tout cas, moi je vous félicite, vous êtes déjà immortel.
Merci, parce que le Zéphyr quand même, c'est quelque chose.
Et on va revenir à l'armée dans un instant, mais juste avant, est-il vrai que vous êtes l'arrière-petit-fils d'un des inventeur des panneaux de signalisation routière et urbaine.
Oui, absolument, oui, je conserve même dans mon portefeuille
un panneau.
La photo d'une image de publicité des années 30, vous savez, ces grandes images comme ça qu'on mettait et que j'adorais et qui m'a d'ailleurs donné envie de voyager puisque on voyait une espèce de grande route nationale avec un panneau fabriqué par nous, si je puis dire, et le thème de la publicité, c'était Suro équipe la route. Et je trouvais que ça me fascinait absolument. Mon arrière-grand-père qui était un militaire à la retraite qui était passionné par les voitures, en lisant le code de la route, s'est dit, enfin, il va bien falloir que les gens sachent s'ils peuvent tourner à droite ou s'ils peuvent tourner à gauche, et la seule manière de savoir, eh ben, c'est de dessiner. Et donc, il a commencé à dessiner les premiers panneaux, il a descendu dans la rue où il habitait, qui aujourd'hui porte son nom, à Nice. Il est allé voir le quincailler chez lequel il achetait ses outils de jardinage, et il lui a dit, on devrait s'associer et créer une usine de panneaux. Et de 1920 à 1970, à peu près, ou 60, on a dû avoir le monopole des panneaux de signalisation pour la France et l'Empire français. Voilà.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
François Sureau, vous êtes entré au Conseil d'État en 81 et vous n'y étiez pas très heureux. Et vous y êtes revenu en 2014 comme avocat auprès du Conseil d'État et de la Cour de cassation, c'est-à-dire avocat au Conseil.
Oui, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand on rentre au Conseil d'État, on est juge. Oui. Et quand j'y suis revenu après une quinzaine d'années au barreau normal, à la Cour d'appel, et puis je suis revenu après pour faire le travail de l'avocat, mais devant le Conseil d'État.
Que fait-on au Conseil d'État ?
Je pourrais me réfugier dans la falsité et vous dire que c'est assez marrant ces trucs-là, parce qu'au fond, je suis resté au Conseil d'État 5 ans. Et on voit encore de temps en temps, il y a des gens qui disent il a été haut fonctionnaire 5 ans, c'est quand même assez peu. Et puis j'étais très jeune et je faisais le travail qu'on fait quand on rentre dans ce truc-là. Donc je ne peux pas dire vraiment que ça m'ait marqué ni structuré. Je ne peux pas dire non plus que je sois la meilleure personne pour en parler. Le Conseil d'État fait deux choses. Il est le conseil du gouvernement sur tous les projets de texte. Et il est également le juge du gouvernement pour tous les actes administratifs, qu'il s'agisse d'un arrêté du maire ou d'un décret du président de la République. C'est lui qui saisit par des requérants. Par des personnes, vient décider si c'est légal ou si c'est illégal.
Alors, vous avez employé le mot structuré. Il y a une chose, en revanche, qui vous a structuré, c'est l'armée. Et alors, vous êtes devenu officier de réserve sous le grade de colonel en 2004.
Oui.
Qu'est-ce que cela implique ?
Ah ben c'est un. Vous savez, quand l'armée est devenue professionnelle, on a changé le système des réserves. Avant, le système de la réserve, on faisait son service militaire, puis ensuite on passait dans la réserve, et on se réunissait en prenant du ventre chaque année, dans des endroits où vous apprenez la modification des tactiques ou de l'armement. Voilà, un peu pour entretenir la flamme en quelque sorte, mais ça avait un côté quand même assez réunion d'anciens bourgeois là qui vont chanter des chansons militaires en prenant de l'âge chaque année. Enfin bon, alors, quand on a fait la réserve opérationnelle, l'armée professionnelle, on a créé une réserve opérationnelle et dans cette réserve opérationnelle, on a proposé de rentrer dans l'armée. Pour y effectuer des sortes de périodes, mais des périodes d'engagement sur le terrain, sur les théâtres d'opérations extérieures en particulier, à des gens qui étaient censés avoir des compétences particulières. Et moi, mes compétences ne consistaient pas à prendre d'assaut la Côte 357 flingue en pogne, mais en fait, à faire du droit, à faire des négociations, à me préoccuper de questions d'organisation, à faire des expertises de théâtre, à faire des choses comme ça. Et donc je l'ai fait de 2004 à peu près, jusqu'à 2020 et quelques. Ouais.
À l'armée, vous avez découvert l'égalité sans considération d'origine, de milieu ou de religion. Vous êtes égaré dans la forêt aussi. Et c'est une anecdote qui m'a marquée en la lisant parce que le mot forêt revient régulièrement sous votre plume et dans votre vie. Et vous êtes l'auteur de Un an dans la forêt, mais c'est autour de Blaise Cendrars et Elisabeth Prévost. Mais la forêt, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous hante. Est-ce que ça vient de l'enfance et de celle que vous arpentiez avec vos grands-parents ?
Alors, il y a probablement des tas de raisons que je ne m'explique pas à moi-même. Parce qu'heureusement, il arrive un âge dans la vie où on cesse d'essayer de s'expliquer des choses à soi-même.
Donc
on se contente de les prendre pour ce qu'elles sont. Notre maison de famille, à laquelle j'étais très attaché, en fait, était adossée à une forêt assez importante. Et donc, j'ai vécu, en quelque sorte, dans l'ombre de la forêt. Vous voyez, des maisons qui sont sur un truc tout plat. Et nous, elle était vraiment en lisière de forêt, seule, solitaire, en lisière de forêt, avec une énorme forêt tout autour dans laquelle je m'évadais, dans laquelle j'allais me promener. Il est probable que ça a compté. Après, j'ai vu la forêt. C'est étonnant parce qu'il y a... ce que je vais dire va faire lever le sourcil à beaucoup de gens, mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui aiment la mer. La mer, le soleil...
Tu lèves les sourcils.
La navigation, à voile. La mer me fait peur. La mer, ce sont les abîmes profonds, c'est les abîmes primitifs, c'est ce qui existait avant que Dieu crée le ciel et la terre.
Oui, là, c'est le Léviathan. Les insectes des forêts, puisque vous êtes entomologiste.
Ah ben j'adore ça. Alors la forêt, à l'inverse, la forêt, contrairement à la mer, si vous voulez, pour moi, alors je ne sais pas si c'est un truc protecteur, maternel, enfin j'en sais rien, mais la forêt pour moi est d'une part une manière d'être dans la nature qui me convient parfaitement. D'autre part, il y a un côté anarchisant dans la forêt. Il y a un côté la liberté des forêts, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a le côté où on se réfugie à l'abri des lois. Il y a un côté Robin Hood, Robin des Bois, auquel je suis très sensible. Et puis par ailleurs, il y a cette dimension qui sont les insectes, les papillons et toutes ces choses que j'aime.
Aucun insecte ne vous rebute ?
Oh non, aucun. Non, quelques insectes humains.
Oui, ils sont bien plus terrifiants.
Plus terrifiants, mais l'insecte vraiment insecte, non ?
Y a-t-il des auteurs ou des avocats qui vous ont formé pour l'art de la rhétorique ?
Écoutez, je vais vous dire la vérité. J'ai pas été un bon avocat, c'est-à-dire que j'ai fait d'abord un métier. Dans mon métier d'avocat, je faisais quelque chose de très particulier, qui est le droit public, et plus spécialement le droit constitutionnel. Ça consiste à aller plaider devant le Conseil constitutionnel. Ces plaidoiries sont des plaidoiries écrites, on peut leur donner une tournure littéraire, vous voyez, c'est pas avec ça qu'on fait les grands avocats, c'est pas avec ça qu'on fait Garçon, Floriot, etc. Et donc moi, je n'ai jamais eu l'occasion, j'ai jamais fait de droit pénal, j'en ai fait un peu, mais j'en ai jamais fait de manière substantielle. J'ai toujours trouvé, pour moi, c'était incompatible avec le fait d'écrire des livres de fiction. C'est-à-dire, j'aurais été par exemple un avocat pénaliste, je n'aurais écrit aucun livre de fiction. Les deux demandent un investissement psychique qui me paraît assez incompatible. Bon. Mais ça ne m'a pas empêché d'admirer les avocats qui, et j'en ai connu quelques-uns, de Bredin, que j'ai beaucoup aimé, à Temim, qui est mort récemment, ou à Thierry Lévy, ça ne m'a pas empêché d'admirer des avocats qui faisaient ce travail que je ne savais pas faire. Et là, pour les admirer, enfin je les admirais aussi parce que j'avais lu les plaidoiries de leurs prédécesseurs, la plaidoirie de Maurice Garçon sur le crime d'Écouard, par exemple, qui est fantastique, l'auteur qui l'a fait innocenter du crime d'Écouard étant un homme qui ensuite qui s'appelait Arnaud et qui ensuite est devenu l'écrivain du Salaire de la peur.
Ah bah bien sûr. Bah oui, William Friedkin a fait un remake de ce film qui est formidable, qui s'appelle The Sorcerer, un des films les plus nihilistes que j'ai vu.
Ah bah j'ai pas vu ça, j'avais vu le premier,
le là,
où il y avait Charles Vanel, etc.
Oui.
Et en fait, Arnaud était le jeune homme qui avait été accusé du crime d'Écouard et qu'en 1942, Maurice Garçon avait fait innocenter. Ensuite, il est parti en Amérique latine et il en est revenu avec le Salaire de la peur.
Alors parlons d'un type qui va fouler pas mal de terre aussi, c'est ce Thomas More, détective que vous avez inventé et dont vous publié le premier tome des aventures, Les Enfants perdus chez Gallimard, François Sureau. Et alors, Thomas More, c'est comme le juriste, historien et philosophe du XVe siècle canonisé au XXe.
Oui, mais c'est pas très important en réalité.
Ah oui ?
C'est-à-dire que... Non, mais ces choses se créent comme une espèce de précipité quand on écrit. D'abord, avant d'être un auteur de romans policiers débutant, j'étais un grand lecteur de romans policiers. Je les lis continuellement, je les lis et je les relis depuis j'ai 12 ou 13 ans. Et je me suis aperçu au bout d'un moment que ce qui me plaisait dans les romans policiers, c'était pas tant la résolution résolution de l'intrigue. Il y a des lecteurs de romans policiers qui aiment, par exemple, voir tous les indices sous leurs yeux, et puis qui ensuite, avec les indices, voient s'ils trouvent la vérité plus vite que le détective. Moi, ça m'a jamais intéressé. Au fond, je me satisfais tout à fait d'arriver à la fin du livre, d'assister à une pirouette. Ah, c'est machin l'assassin. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de suivre une personne, et une personne que j'aime.
Alors, vous aimez Raymond Chandler ?
Alors, oui, mais je dois dire que le côté américain m'est moins proche, par exemple, que le côté déjanté des Anglais. Par exemple, j'ai aimé Sherlock Holmes plus que tout. Je veux dire, ce vieux garçon qui vit avec un autre homme, qui se pique à la cocaïne, qui résout des disparitions et non pas des crimes dans une atmosphère de brouillard, me paraissait extrêmement onirique et presque moins réaliste. Et donc, j'ai aimé le suivre, tout comme on aime suivre même le gros Maigret, là, qui commence une enquête au vin rouge et s'il décide de changer à la bière, il n'arrive pas à résoudre le problème. J'ai aimé ces gens-là. Même, vous voyez, même dans les séries télévisées, par exemple, j'ai adoré Columbo, ce personnage qui feint d'être idiot, qui est sans cesse socialement déclassé et qui, pour finir, est le principal vecteur de la révélation de la vérité. Et donc, je me suis demandé, mais qui est-ce que tu aimes bien, quoi ? Alors, et je me suis aperçu ce que j'aimais, j'ai pris, comme tout le monde fait, hein, des traits de personnes que je connaissais, qui m'étaient proches, j'ai pris... l'allure générale de Leslie Howard, je ne sais pas si vous vous souvenez de qui est Leslie Howard, qui figure en couverture, le dessinateur a à peu près reproduit son visage, Leslie Howard et Lashley Wilkes, d'Autant en emporte le vent. Il était aussi dans ce film anglais de l'entre-deux-guerres qui s'appelle Le Mouron Rouge, où une espèce d'agent secret propulsé dans la France de la Révolution essaye de sauver des contre-révolutionnaires, The Scarlet Pimpernel.
Et en
plus, la vie de Leslie Howard me fascinait. Leslie Howard est un juif hongrois qui s'appelait Steiner. C'est comme Eric von Stroheim, quoi, qui était un juif de Vienne. Et quand on le voit, on a l'impression que le type est né dans une famille d'aristocrates prussiens. Leslie Howard était un juif hongrois qui a connu une fin tragique, résistant, abattu dans son avion par les Allemands en route vers Malte. Et à la fois, la destinée de Leslie Howard, la figure de Leslie Howard, m'ont inspiré pour faire le personnage. Après, il restait le nom. Alors, le nom, j'ai... Voilà, et puis je me suis dit, au fond, un Anglais indépendant d'esprit, qui n'est pas absolument jamais là où on le cherche, on s'attend à ce qu'il soit l'ami du roi, il devient l'ennemi du roi, on s'attend à ce qu'il proteste contre ceci, il proteste au contraire contre autre chose, et il essaye de faire prévaloir la conscience, et ben, c'est Thomas More, et c'est pour ça qu'il va s'appeler comme ça.
Alors, on pourrait soupçonner chez votre Thomas More une foi catholique sans qu'il ne la confirme, mais ne serait-ce que par l'endroit où il vit, que je ne révèle pas, et je voudrais m'intéresser à votre rapport à la foi et à la transcendance. Vous êtes un homme multiple, vous parlez assez aisément du fait que l'unité ne vous habite pas. Quel est votre rapport à la foi et à la transcendance, vous qui célébrez la messe chez les Melkites, l'église grecque catholique de rite byzantin ?
Enfin, je ne la célèbre pas, j'y assiste.
C'est une façon de la célébrer.
Oui, bien sûr, mais je ne me suis pas transformé tout d'un coup. C'est très difficile d'en parler. En fait, je vais vous dire, je préférerais ne pas.
Ah oui ?
Et je vais vous dire pourquoi. Il y avait un homme que j'ai beaucoup aimé dans le monde de l'Orient, dans le monde orthodoxe, qui s'appelait Alan Bloom, qui était le métropolite de Souroge. En fait, c'était le responsable du patriarcat grec à Londres. Médecin, résistant en France, membre d'un réseau de résistance, russe blanc, émigré à Londres, rentré dans les ordres, devenu moine, puis devenu évêque. Et un jour, il est à la BBC et quelqu'un lui demande « Alors, Monseigneur, pour vous, qu'est-ce qu'être un chrétien ?» Et il répond simplement « C'est avoir honte de ne pas l'être assez. » Et la conversation s'arrête là. Donc c'est assez difficile de... J'ajoute que ça m'a rendu... Enfin, peut-être que la lecture des textes ou les choses de ce genre m'ont rendu sensible à des influx qui passent également dans ce livre. Par exemple, aussi curieux que ça puisse paraître, l'influx acidique qui est très présent, que j'ai découvert avec les livres d'Elie Wiesel et qui m'a amené à lire les bons auteurs, d'où certaines singularités, comme par exemple l'horloge du quartier de Prague, etc.
Alors, je ne ferai que citer deux choses que vous avez dites dans des journaux. Se faire écrivain, c'est vouloir être disciple du Verbe de Dieu, le seul créateur. Mais aussi, dans la vie en 2020, même en littérature, je préfère la compagnie des athées. Très souvent, les écrivains catholiques me font à penser des artisans qui font rentrer un bateau dans une bouteille.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Pourquoi ai-je choisi de passer ce morceau, François Sureau, puisque dans votre récit autobiographique « S'en aller », il y a un homme qui a beaucoup compté pour vous, qui vous catéchisait, mais en fait, vous écoutiez plutôt Simon & Garfunkel chez lui. C'était le père Puech.
Le père Puech, oui, un jésuite du collège où j'ai fait mes études. C'est étonnant, on ne se souvient pas maintenant, mais Vous voyez, ma réticence à répondre à votre question sur les histoires religieuses, là, elle vient du fait de, peut-être, de mon agacement, de mon énervement devant la manière dont la religion a rempli l'espace public. Depuis qu'on a fermé les églises, on n'a jamais entendu autant de sermonneurs. C'est-à-dire que la morale est partout, et des tas de représentants de toutes sortes de religions viennent en permanence nous dire ce que Dieu pense. Il y a une phrase de Jaspers que j'aime énormément qui est « Je déteste la manie qu'ont certains hommes de vouloir en instruire d'autres au sujet de Dieu ». Et alors ce père Puech, auquel j'étais très attaché, ne faisait pas du tout ça. Il nous accueillait dans son bureau pour fumer, parce qu'à l'époque on pouvait fumer dans les collèges, et il nous passait du Simon Garfunkel. Les chansons de ces années-là, de Simon Garfunkel, Leonard Cohen, etc., sont des chansons dont l'influx spirituel post-Woodstock est absolument évident, mais qui ne comportait aucun élément catéchétique. Je crois que j'adorais ça.
Vous fumez toujours ?
Ah oui, je fume. J'ai tenté d'arrêter, mais je continue de fumer. C'est une habitude que j'ai prise là-bas, d'ailleurs.
Vous fumez la pipe comme un détective ?
Oui, alors à l'époque, je ne savais pas que c'était comme un détective. Je crois que...
Vous avez commencé tôt.
J'ai commencé à 15-16 ans.
Très bon âge.
Et je n'ai jamais arrêté depuis. Et c'était pas pour me conformer à un détective, c'était... Vous savez, à l'époque, je lisais ces petits livres là en collection, les écrivains de toujours, et je savais que je voulais être un écrivain. Un peu plus tard, je me suis rendu pour avoir un livre comme ça pour à moi un jour. Et puis, je me suis rendu compte au bout d'un certain temps, pour avoir un livre comme ça, il fallait peut-être écrire des livres. C'est là où l'exercice est devenu un peu difficile. Mais j'étais fasciné par ces images. Et par exemple, au début du Rimbaud de Bonnefoy, où on voyait la Meuse, et puis cette phrase de Rimbaud écrite en couverture, et libre soit cette infortune, et on voyait Rimbaud en train de fumer une pipe en terre blanche qu'on appelait une gambier. Je crois que la première pipe que j'ai fumée était une gambier dans l'espoir fou que le tabac me rendrait comparable à l'homme aux semelles devant. Évidemment, rien de tel ne s'est passé, parce qu'on n'est pas quand même totalement au pays des sortilèges.
Là, vous parlez, mais un petit peu tout de même, vous parliez des moralistes. Et l'avocat et le croyant ont une morale. Leur connaissance de l'humanité leur permet-elle de ne pas être moralistes ?
Mais tout le monde, enfin, je veux dire, je pense que la grande surprise, la surprise générale que le monde s'échine à cacher, c'est probablement que tout le monde a une morale, et qu'en réalité, personne ne se trompe jamais sur ce qui est bien ou sur ce qui est mal.
Oui, mais la morale, c'est pas être moraliste. Tout moraliste est malheureux, comme le dirait Proust.
Oui, et puis il y a une sévérité dans le moralisme. Il y a l'idée de vouloir punir les autres pour des fautes qu'on a soit commises soi-même, soit pire encore, qu'on n'a pas eu l'audace de commettre soi-même.
Ce qui est en vogue.
Ce qui est assez en vogue, spécialement en ce moment. Je crois que à la fois l'influx de... Oui, d'une forme de la foi, l'influx de la littérature, l'influx m'a rendu non pas moraliste mais étranger. Il y a une phrase de Somerset Maugham que j'aime beaucoup. Il raconte une discussion qu'il a avec un de ses amis et il dit au fond, nous étions tous les deux étrangers à ce monde. Lui en tant que juif et moi en tant qu'écrivain, mais lui du moins était bien élevé.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
François Sureau, vous publiez Les Enfants perdus chez Gallimard avec le détective Thomas More. Les deux prochains tomes seront L'heure française, ça se passe en 1940. Ensuite, Si je t'oublie Thessalonique, qui se passe en 1913. Et vous venez de terminer un tome situé en mai 1889 en Hongrie au moment de la chute du mur. Thomas More est-il un vampire ?
Non, il est pas un vampire d'ailleurs. Je m'en voudrais de dire du bien de mon livre. En tout cas, je peux dire du bien du héros lui-même, auquel j'ai fini par m'attacher. Je pense qu'on peut lire ces livres sans savoir qu'ils traversent le temps. Et d'une certaine manière, ça n'est pas essentiel à la lecture du livre. C'est une forme de personnalité sympathique. Après tout, il pourrait y avoir eu un Thomas More, grand-père, père, fils, et ainsi de suite. Et ça aurait donné à peu près la même chose. Donc ça n'est pas un vampire, ça n'est pas le Juif errant, ça n'est pas Balsamo, ça n'est pas le comte de Saint-Germain. C'est simplement quelqu'un que j'ai plaisir à placer dans toutes les époques qui m'ont intéressé pour une raison ou pour une autre, pour voir comment il s'y conduit face à l'histoire, face au crime, face au meurtre, face aux passions, face au drame. Quel est son comportement? Parce que ce qu'on aime voir, je trouve, moi en tout cas, chez les détectives de romans policiers, c'est moins la résolution du crime que la découverte de la vérité des caractères et la manière dont il s'y prend pour révéler ce qui jusque-là était caché.
Alors vous situez l'intrigue en 1870, après la débâcle française de Sedan, et justement vous dites que pour vous, on n'apprend jamais aussi bien qu'à travers les romans. Vous citez en exemple la débâcle de Zola.
Oui, non, mais ça c'est devenu un lieu commun, mais c'est parfaitement vrai. C'est-à-dire que la vision, par exemple, que Balzac donne de la Restauration, la première, ou que Stendhal donne de Résolution un peu plus tardive, cette vision nous éclaire sensuellement presque, sur ce qu'était véritablement la Restauration, infiniment plus qu'un ouvrage d'histoire classique qui obéit à d'autres règles, qui est une fiction d'une autre nature, en réalité. Et la débâcle, pour moi, a été... Je trouve que c'est pas un roman réussi, d'une certaine manière. C'est un roman que j'adore, mais c'est pas un roman réussi. Je trouve que les personnages sont très bidimensionnels, que les dialogues sont très souvent plats. Mais en revanche, ça charrie un regard romanesque sur le déroulement de l'histoire qui est absolument poignant.
Alors... il y a une définition que vous donnez au début des Enfants perdus, c'est justement la définition des Enfants perdus. Est-ce que vous pouvez la donner, François Sureau?
Oh, je ne peux pas vous réciter le... En plus, comme je vous ai avoué que je n'attachais pas
à
l'histoire de l'Académie, je ne peux pas vous la réciter, mais en fait, les Enfants perdus, c'est un... avancer en Enfants perdus, marcher en Enfants perdus, c'est un mot, ce sont des mots du vocabulaire militaire, dans lequel, en fait, on détache des types tout seuls, là, qui vont en avant de la ligne, tirailleurs, en étant appuyés par rien, par l'artillerie, par personne, au péril de leur vie et en quelque sorte en désespoir de cause. Voilà. Et c'est ça les Enfants perdus.
Vous confiez récemment au Monde avoir eu une enfance remplie d'angoisse sourde que l'armée a calmée. Vous êtes-vous senti un enfant perdu?
Non, et puis alors en plus... Je vais vous dire la vérité, je pense qu'on ne peut rien, on ne peut rien dire de tout ça. Ce qui m'a frappé, c'est que le regard que l'on peut porter sur son enfance varie avec le passage du temps. C'est-à-dire que ce que je vous dirais maintenant de ce que mon enfance a été est probablement tout aussi inexact de ce que j'aurais pu dire 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans après que mon enfance se soit terminée. C'est donc la raison pour laquelle je rejette tous ces mystères et toutes ces merveilles dans le passé, en ne m'en souciant pas davantage.
Thomas More offre ses services suite à la découverte de deux cadavres, un capitaine de cuirassiers dans le camp de prisonniers et celui d'une jeune fille portant l'habit d'une carmélite. Comment est-ce que vous avez procédé à la caractérisation, puisque vous étiez assez critique avec Émile Zola qui pourtant écoute l'émission, donc j'espère qu'il ne sera pas peiné de votre critique, mais comment avez-vous caractérisé vos personnages? Parce qu'on sent une jubilation à le faire. Ils ont tous de l'épaisseur, il y a Martineau, Gribelius, Val d'Orsay...
Alors, mais je dois dire que j'aime bien les... Enfin, j'y ai mis beaucoup de ce qui m'a plu chez les gens, de manière générale. Je crois qu'à la fin, en fait, on aime aimer. On aime une certaine forme de bienveillance. Et qu'on voit, même chez des gens qui sont pétris de défauts, voire même criminels, mais il y a toujours quelque chose à sauver. Et quand on exagère ce qu'il y a à sauver chez quelqu'un... En général, on fait un personnage romanesque, à mes yeux, absolument fascinant. Il y a un très beau texte de Stevenson, qui s'appelle « Les porteurs de lanternes », où il explique que c'est dans cette mesure que la littérature a quelque chose à voir avec le bien. Je ne connais pas de portrait plus bouleversant d'un personnage littéraire, et je le dis sans crainte de paraître cucu, qui est le portrait de Monseigneur Bienvenu Myriel au début des Misérables, celui qui sauve Jean Valjean, qui est un personnage extraordinaire. On voit très bien que Hugo avait dû rencontrer trois curés, a aggloméré, soufflé, développé tout le bien qu'il avait senti ressentis en lui. Alors, voilà, j'ai fait pareil. Martineau, j'ai connu des Bretons honnêtes, granitiques et réfractaires. Seligman, j'ai connu ce genre de garçon d'une excellente famille qui se demande un peu ce qu'il fait là et qui prend les choses avec une distance bienvenue, et ainsi de suite. Même Schuster, l'adjudant-chef batailleur de la faim, duelliste impénitent, j'en ai connu des comme ça. Alors, ils n'étaient pas uniquement comme ça. La caractéristique du romancier, c'est que d'une certaine manière, il durcit le trait. Mais c'est très agréable de durcir le trait parce qu'en le durcissant, on a l'impression de rendre justice à toute une foule de gens qu'on a croisés dans sa vie et qu'on trouvait extrêmement sympathique, sans jamais leur avoir dit.
C'est vrai, je ne dévoile pas qui, mais il y a un meurtrier qu'on découvre dans le roman et qui attire à certains moments la sympathie. Je ne dis pas son nom. Vous écrivez dans ce livre, je vais vous soumettre trois phrases. C'est l'instant qui fait le crime, l'instant qui transforme un innocent en criminel. On se dit qu'il n'y a pas de Dieu alors qu'on devrait plutôt voir qu'il n'y a pas d'homme. Le mal est plus visible que le bien, ça ne veut pas dire qu'il soit plus fort que lui. Vous n'avez jamais été découragé, métaphysiquement, existentiellement.
Comme tout le monde, enfin, je veux dire, sous l'effet de... J'aurais adoré être Nabokov et pouvoir répondre à votre question avec la voix qui prenait pour répondre à Pivot. J'ignore tout, madame, du découragement. Mon art et mon esprit sont empreints depuis l'enfance d'un pétillement bonhomme. Bon, alors, comme je ne suis pas Nabokov, bien sûr que j'ai ressenti du découragement, mais la question est celle des vases communicants. D'une certaine manière... au fond, je pense que beaucoup de gens sont optimistes, à peu de choses près, et sont de temps en temps saisis par des vagues de pessimisme extrêmement, extrêmement brutales et soudaines. Et bien moi, ça a toujours été l'inverse. C'est-à-dire, sur un fond de doute et de pessimisme, en fait, chaque jour, depuis très longtemps, chaque semaine, chaque mois, chaque année, m'a apporté des occasions d'émerveillement. Et ce sont ces occasions que j'essaye de traduire en écrivant des livres.
Skep joue Graj, joue, violoniste joue, en polonais, un tango choisi par vous, François Sureau.
Parce que c'est exactement ce que j'essaie d'exprimer. À la fin des fins, je sais maintenant que je suis plutôt dans le dernier tiers de ma vie, ou dans le dernier quart, que dans le premier. Eh bien, à la fin des fins, ce qui domine, c'est le caractère absolument merveilleux au sens propre de tout ce mouvement de la vie qui nous emporte, douleur comprise. Faute comprise, erreur comprise, et qui fait de la vie pour moi quelque chose d'à jamais énigmatique et merveilleux. Et je trouve que cette musique l'évoque de manière saisissante.
C'est très mal élevé d'exprimer son chagrin. Je crois que la politesse consiste justement à cacher son chagrin. Nous avons déjà trop d'occasions d'éprouver du chagrin. Il vaut mieux s'occuper de celui des autres que de son propre chagrin. Et son propre chagrin, je crois qu'il faut le dissimuler sous la gaieté. C'est ce que je fais toute ma vie.
Il semble que vous puissiez vous accorder. François Sureau, avec Jean d'Ormesson, que j'avais reçu dans Remède à la mélancolie en 2016, vous avez coécrit avec lui « Garçon, de quoi écrire ?» Alors, pouvez-vous nous donner un souvenir de lui et que faut-il pour écrire ?
D'abord, que faut-il pour écrire ? Je me souviens très bien que dans ce texte, parce que on se voyait chez lui à Neuilly, et puis on s'entendait bien, et on échangeait des... Voilà, on parlait pendant des heures. Ce livre est issu de, je dois avoir, 250 bandes enregistrées, dont le livre ne correspond qu'au dixième. On parlait de tout, tout le temps, on parlait de tout en permanence. Et à un moment, on se posait la question de savoir... et je lui dis, d'ailleurs, je lui demande, mais pourquoi écrit-on ? Alors il réfléchit un peu et me dit... Et je trouve cette phrase est l'une des plus justes que j'ai jamais entendues. On écrit, surtout venant de la part d'un homme qui était discret et réservé, comme il l'était, comme on vient de l'entendre, on écrit parce que quelque chose ne va pas. Tu vois, quelque chose ne va pas. J'ai trouvé ça absolument bouleversant en réalité. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas ? Notre condition d'être créé, un malheur sentimental, un trouble, une faute qu'on a commise, l'histoire qui ne fonctionne pas comme elle devrait. Quelque chose ne va pas. Et c'est ça le souvenir que je garde de lui. C'est une très grande gaieté sur. Il avait écrit un livre d'ailleurs dont le titre était exactement ça, une fête en larmes. Et c'est une caractéristique qui vaut mieux conserver à la vie, je trouve.
Vous avez préfacé le beau livre « À Paris, sur les traces des personnages de romans » paru chez Autrement. Les textes sont d'Ismaël Jude et les cartes de Maxime Sall. Dedans, vous parlez de la contemplation des plaques d'écrivains dans Paris, et de la mort, évidemment, et du temps qui presse. Et vous écrivez ceci « Nous qui attendons de la littérature, pas le salut, mais une meilleure manière d'exercer la vie ».
C'est exactement ça.
Mais parfois, vous en avez attendu le salut.
Ah non, surtout pas.
C'est vrai ?
Non, surtout pas. Il y a plusieurs manières. Enfin, il y a différentes écoles, mais comment dire ? Il y a ceux qui attendent, qui ont voulu faire leur salut dans l'art. Enfin, même Proust, enfin, a voulu cette formidable cathédrale spirituelle agnostique. Enfin, donc, il a voulu faire son salut dans l'art. Il pensait d'ailleurs que chacun devrait écrire sa recherche du temps perdu pour soi-même, pour faire son salut. Et moi, je n'ai jamais vu la littérature de cette manière. Je l'ai vu comme quelque chose qui est la conséquence de l'effort pour vivre de manière aussi consciente et sensible que possible. Et cet effort est comme un rabot qu'on passe sur le bois dur de l'existence. Il en sort des copeaux à chaque période de la vie. Et ces copeaux, ce sont les livres. Ce sont des traces, ce sont des choses qui passent, ce sont des choses qui sont destinées à disparaître, dont personnellement je n'attends pas une réputation qui suivra ma mort. Qui sont véritablement des témoignages de cette volonté que nous avons de ne pas passer totalement en étranger sur la terre.
L'héroïne de ce livre dispose de tous les moyens voulus. On peut vraiment dire qu'elle est faite pour centrer sur elle tout l'appétit de merveilleux. Et pourtant, toutes les séductions qu'elle exerce sur moi restent d'ordre intellectuel, ne se résolvent pas en amour. C'est une magicienne dont tous les prestiges jetés dans la balance pèseront peu en regard de l'amour pur et simple qu'une femme, comme celle qu'on voit passer à la fin du livre, peut m'inspirer.
À cette époque, la grande source d'inspiration surréaliste est donc l'amour.
Oui. Indépendamment du profond désir d'action révolutionnaire qui les possède, tous les sujets d'exaltation propres au surréalisme convergent à ce moment vers l'amour.
Vous êtes ambivalent, François Sureau, parce que dans une interview, je vais évidemment dire ce qu'on vient d'entendre, mais vous dites ce que j'ai aimé dans la littérature, c'est son utilité en termes de salut personnel. Et là, vous venez de dire, non, je n'ai jamais cherché le salut dans la littérature. Mais vous assumez parfaitement le fait de ne pas être univoque. Et là, on entendait André Breton sur la RTF en 52 au micro d'André Parinaud. Il fait partie de vos écrivains affectionnés, avec Nabokov, que vous avez parfaitement imité tout à l'heure, Stevenson, Defoe, et Simenon, dont on avait une géniale archive. Mais je ne sais pas si vous voulez l'écouter. je préfère vous entendre dessus.
Ah bah c'est, moi je fais absolument ce que vous voulez, mais je repensais à ce que disait... en fait, oui, je suis contradictoire, parce que peut-être que j'ai changé au cours du temps, et maintenant, vers la fin, je suis plutôt sensible à cet homme qui a été le grand auteur de ma jeunesse, qui était André Breton. À un moment, on lui pose une question dans une interview où il répond « Je ne fais pas partie de ces gens qu'on trouvera comme Mauriac, la plume à la main à l'horreur dernière. » Chez Breton... le désir, d'une certaine manière, de révéler la profondeur étrange de la vie pour ce qu'elle est, au-delà de toutes les conventions, y compris des conventions du roman, des conventions de l'art, des conventions de... cette volonté, elle a enchanté ma jeunesse. Et elle, d'une certaine manière, elle m'a projeté dans une sorte de monde féerique dont j'espère ne pas être totalement sorti. Et dans ce monde-là, ça n'est pas l'œuvre qui compte, c'est le mouvement.
Alors vous dites que Céline, son œuvre vous restera fermée.
Totalement, mais c'est un propos qui me condamne sans doute.
Rien ne vous condamne, et qui ne sauf vous-même.
Voilà, et qui ne condamne pas, en tout cas, Céline. Oui, son œuvre m'est fermée, absolument fermée.
Est-ce que vous aimez chez Chateaubriand, c'est le fait qu'il soit poète?
Oui, et à la fois qu'il soit poète et en même temps qu'il soit extraordinairement comique. Parce que vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de grande œuvre sans comique.
Je ne l'ai pas perçu chez lui.
Sans qu'on puisse rire. Mais si, les descriptions absolument phénoménales du personnel révolutionnaire dans les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est absolument extraordinaire. Chateaubriand, Cabanis disait ça très bien. Il disait, pour juger le personnel révolutionnaire, il faut s'imaginer que c'est des contemporains. Et Chateaubriand, en réalité, décrit le personnel révolutionnaire avec la même ironie que nous pourrions employer pour décrire X ou Y du personnel politique contemporain. Et c'est d'une drôlerie irrésistible.
Ô Chapet, mon ami, comme je sens mieux les beautés de ces contrées magnifiques, maintenant que j'en suis éloigné. J'aime ce lieu que j'ai habité 3 mois près de Port-au-Prince. Il était très retiré, et comme perdu au milieu des bois, sur une colline que dominaient immédiatement d'assez hautes montagnes. J'y vivais habituellement seul. C'est là que j'ai commencé à retrouver du plaisir à l'étude. J'en emplissais mes journées.
François Sureau, j'aime bien terminer l'émission par des recommandations de lecture. On entend une dramatique de 68 sur France Culture, La brève destinée de Victor Jacquemont, voyageur naturaliste. Et dans votre récit S'en aller, vous convoquez plusieurs écrivains. Il y a évidemment Hugo, Chateaubriand, Breton, mais aussi des auteurs un peu moins connus comme Victor Jacquemont ou Jacques Le Body. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot sur eux ou recommander une œuvre?
Je crois que... Enfin, bon, Jacques Le Body est un personnage assez extraordinaire. Ce qui est merveilleux sur... Alors, je vais recommander une œuvre un peu particulière, mais ce qui est merveilleux dans l'affaire de Jacquemont, c'est une société d'amis. Une chose à quoi le surréalisme, c'est-à-dire très, très sensible à ses débuts, des gens qui vivaient ensemble, etc. Et là, dans les années 1820-1830, il y avait plusieurs amis ensemble. Naudier, Mérimée, Stendhal... Sutton Sharp et Victor Jacquemont et le jeune Ampère, et ils vivaient tous ensemble en permanence, et dans leur correspondance, la correspondance de Mérimée est absolument magnifique parce qu'ils parlent les uns des autres, etc. Et tous pensaient que là-dedans, des talents fous quand même, Ampère, Mérimée, Stendhal, ils pensaient tous qu'ils n'étaient rien et que seul Jacquemont deviendrait quelque chose. Et Jacquemont est mort à 30 ans en Inde. On voit des traces de ça dans le très très joli portrait que les Stendhaliens n'aiment pas beaucoup d'ailleurs parce qu'il est à certains égards critique, que Mérimée a consacré à Stendhal, qui s'appelle HB par l'un des 40. Et c'est ça qu'il faut lire pour avoir une impression de ce que c'est que l'amitié dans les lettres.
On n'a pas le temps, hélas, de parler de ce que vous vouliez faire découvrir aux auditeurs, mais je le dis quand même, car c'est suffisamment singulier pour être cité, c'est le Musée du Crime, son exposition permanente au dernier étage du commissariat de police du 5e arrondissement, Place Maubert. Et je ne peux pas, hélas, vous faire réagir à cela, mais justement, ça rend la chose d'autant plus mystérieuse.
Oui, il faut y aller quand même et observer, et regarder la malle de Gouffet et la lunette épouvantable par laquelle Petiot observait ses victimes.
Merci beaucoup François Sureau.
Merci à vous.
Votre roman Les Enfants Perdus est paru chez Gallimard. Vous avez préfacé le beau livre À Paris sur les traces des personnages de romans paru chez Autrement. Et nous l'avons appris après avoir lancé l'invitation. Vous avez rejoint temporairement la chaîne dans l'émission Les Admirations Littéraires en alternance avec Sophie Marceau le dimanche. Vous êtes en plein dedans. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfoise, Betty Algret et Franck Olivard. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. À la technique, Guillaume Roux. À demain, 20h10.